spectaculaire en allumant votre radio. C'est quand Michael Jackson était encore noir. The Cure.
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info.
Du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir.
Bonsoir. Il est 19h, passé de 4 minutes, et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, on commencera par des brèves.
Ensuite, la quadrature du net obtient le code source de l'algorithme utilisé par la CNAF. Il est long ce titre.
Ensuite, scandale dans les crypto-monnaies.
Ensuite, on aura la chronique de Laurent Delabouze.
Et enfin, logement
social. Non, faut vraiment parler devant ton micro, sinon.
Et enfin, logement social, la commune à la traîne. Les communes à la traîne.
Revanche de la rillette de porc sur le couscous falafel. Gérard Larcher a balancé un « ferme ta gueule » à l'adresse de Jean-Luc Mélenchon.
C'était une brève, très brève.
C'est à toi, vas-y. S'il te plaît, s'il te plaît. Je parle peut-être pas bien dans le micro, mais... L'anarchiste italien Alfredo Bonanno est mort aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Anarchiste insurrectionnaliste, il était connu pour avoir écrit les textes parmi lesquels La joie armée, Qui a peur de l'insurrection. Il était éditeur aux éditions Edizione Anarchismo. Merci pour mon accent italien. Et a effectué plusieurs allers-retours en prison, notamment pour des accusations liées à de la propagande par le fait et à de la réappropriation armée.
Les 5 antifas qui comparaissaient devant le tribunal de Lyon suite à un superbe murage du feu local d'extrême droite situé sur les quais de Saône en 2018 ont été pas tout à fait relaxés mais dispensés de peine. Cette action avait participé à notamment visibiliser le local auprès du voisinage, facilitant ainsi sa fermeture. Les 5 sont relaxés des faits d'outrage en réunion, mais ils sont condamnés avec dispense de peine pour la dégradation du local. Soulagement pour LE.
3 policiers ont été condamnés mardi matin. Ils ont été retenus coupables d'homicide involontaire pour leur action lors d'une course-poursuite, ce qui a mené au décès de 2 vintenaires, Sabrina et Wassim, en mai 2017. Alors, si l'affaire vous dit rien, c'est parce que c'est un tribunal belge qui condamne les policiers belges. Et rassurez-vous, les JPN n'a toujours pas été dissoute et se charge toujours de blanchir les policiers français.
Allez, petite blague. C'était a priori une bonne couverture pour vendre de la drogue. Ouvrir un salon de coiffure à Gênes, ça justifie des allées et venues un peu incessants, plus ou moins longs, de pouvoir passer du liquide pour une coupe difficilement vérifiable auprès du fisc local. Bref, tout allait bien dans le business jusqu'à ce que trop de consommateurs de cocaïne venant se fournir dans le salon soient chauves, ce qui a mis la puce à l'oreille des policiers locaux. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'ils le racontent dans la presse, parce qu'on imagine bien que tous les flics d'Italie ne campent pas devant les salons de coiffure en comptant le nombre de chauves. Bref, après une perquisition dans le salon, des balances de précision et 100 grammes de cocaïne ont été découvertes. La prochaine fois, peut-être qu'il faudrait penser à fournir des perruques.
En bonus, on vous invite à aller lire l'article du Point sur le rôle des antifas dans le trafic de drogue de la place Mazagran. Il vaut son pesant de cacahuètes, mais c'était un peu dommage de faire un truc dessus. C'est à toi ? Non, c'est à moi encore. Le journal La Topette, me demandez pas, je connaissais pas, c'est un truc à... mince, j'ai oublié le nom, Angers, je crois. Le journal La Topette a révélé qu'en épluchant les sites spécialisés dans le suivi des avions, sur les 6 derniers mois, Christophe Béchu avait effectué 11 vols en avion privé en direction de divers coins de la France, 23 si on compte les trajets à vide. Alors, vous allez me dire, et alors hein, parce que vous êtes aussi nul que moi. Vous êtes aussi nul que moi en Christophe Béchu. Et en fait, bah et alors Christophe Béchu, c'est le ministre
de
la transition énergétique. Bah
oui.
C'est le type qui est censé... Bah d'ailleurs, là, il est parti en jet privé pour faire le truc à la COP28.
Transition écologique.
J'ai dit quoi? Énergétique, ouais. Écologique, pardon. Et voilà, je me suis dit, la blague, elle s'écrivait toute seule. Donc, rien de plus à rajouter.
Et quand même, si vous êtes affûté à l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que le chanteur de La Souris Déglinguée est mort. Luc.
Triste semaine pour le rock'n'roll. Ouais, le chanteur de La Souris Déglinguée, le chanteur des rebelles sans cause, des révolutionnaires sans révolution, des révoltés sans organisation.
Tu as une chaîne de télévision et moi une chaîne à vélo. Monopole de la violence contre ma délinquance. Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les médias? Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les médias? Est-ce que tu le sais? Sur ta peau blanche. Samedi soir, la jeunesse s'amuse et claque son fric dans les discos juifs. Et mes copains sont dans la rue, place de la République. Trop arabe ou trop nègre, on est coincé dès l'entrée. On finit par la vengeance, tous nos rêves sans conséquence. Est-ce que tu le sais? Un peu de vengeance sur ta peau blanche.
Et c'était Rock'n'Roll Vengeance de La Souris Déglinguée.
Voilà, alors, concernant la mort de Taï Luc, du coup, il était devenu bouquiniste à Paris. Et pour l'organisation des JO, il avait fallu virer tous les bouquinistes. Et apparemment, avec ses problèmes respiratoires, le fait de déménager tous ses gros bouquins, ça aurait pu être ça qui aurait participé à sa mort. Enfin bon,
c'est le frérot qui dit « Annie Dingo l'a tué ».
Voilà.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, et bien, spoiler alerte, la CAF cible les plus fragiles. Depuis 2011, la CNAF, alors la CNAF c'est la Caisse Nationale d'Allocation Familiale, pardon, c'est ceux qui chapeautent un peu là, toutes les CAF, utilisent un outil statistique appelé data mining qui permet de cibler les allocataires les plus à même de tricher. Et si elle ne s'en était jamais cachée, en l'occurrence, l'algorithme était, lui, secret et la seule communication de la CNAF à ce sujet était circulée. Il n'y a rien à voir, l'algorithme est neutre. Déjà en 2017, le défenseur des droits s'inquiétait des risques discriminatoires avec cet outil de ciblage. La quadrature du net, après une bataille juridique, a réussi à obtenir le code source et l'a analysé. Alors officiellement, le logiciel n'est pas censé débusquer des fraudes par exemple, mais seulement attribuer une note allant de 0 à 1. Plus on se rapproche de 1, plus on a des chances d'être contrôlé. Sur la première élément, là, sur le fait qu'il n'est pas censé débusquer des fraudes, pour le coup, la quadrature exprime quand même de gros doutes là-dessus. Mais quand même, ce qui pose de gros problèmes, c'est ce qui révèle une infographie du journal Le Monde qui démontre que plus notre situation est précaire, plus cela fait augmenter notre note et donc on risque de se faire contrôler. Par exemple, un couple où les deux personnes travaillent de manière régulière et qui touchent un RSA activité ou seulement qui touchent des allocations logement ou quoi, ont peu de chances d'être contrôlés. Mais par exemple, une mère isolée enchaînant les petits boulots, là, le risque augmente considérablement. Encore plus surprenant, le lieu de résidence influe également sur la note. Habitant des quartiers, votre note est donc majorée. De même si vous percevez l'allocation adulte handicapé. On voit bien que derrière un outil soi-disant neutre se profile la figure du fraudeur type. Mediapart a interrogé Vincent Dubois, sociologue et auteur du livre « Contrôler les assistés, genèse et usage d'un mot d'ordre ». Pour lui, rien de surprenant à trouver ce fonctionnement dans le code. Il avait constaté ce qui s'apparente à de la discrimination à l'égard des populations qui ont de faibles revenus dans des situations sociales et familiales instables et qui perçoivent le RSA. Le sociologue explique que la CNAF va organiser son contrôle sur un facteur de risque basé non pas sur un comportement des allocataires à risque, mais sur la nature des prestations perçues. C'est donc plus, en gros, si vous êtes allocataire du RSA, vous avez énormément de chances d'être contrôlé, beaucoup moins que par exemple si vous êtes simplement allocataire des APL par exemple. En gros, plus les situations sont complexes et instables, plus on doit déclarer d'éléments et plus on a de chances de faire des erreurs. Par exemple, dans l'algorithme, une des choses qui majore votre note, donc qui vous rapproche du chiffre 1, donc qui augmente votre risque de contrôle, c'est le fait de faire des déclarations de revenus régulièrement auprès de la CAF. Et qui est-ce qui fait des déclarations de revenus de manière trimestrielle auprès de la CAF? C'est les personnes qui touchent le RSA. C'est-à-dire que, par exemple...
La prime d'activité aussi, c'est complètement con leur truc.
Oui, mais par exemple, pas les appels. Ni les allocations, ni les simples allocations familiales qui sont données si tu as des enfants. En fait, sur tout le panel
c'est les trucs des pauvres. Quoi.
Oui, voilà, exact. Et tout ce qui nécessite un contrôle assidu et déclaratif et de toutes les revenus, c'est sur les personnes les plus précaires. Si la CNAF se défend d'utiliser un outil neutre, pour le sociologue, la technologie permet à l'institution de se cacher derrière des résultats statistiques. Or, il souligne la entre guillemets cohérence entre le public ciblé et la politique ambiante. Pour faire clair, les populations ciblées sont celles qui sont les plus stigmatisées dans le débat public. Pour la quadrature du net, ce genre d'algorithme est utilisé par tout un tas d'organismes allant de Pôle emploi à l'URSSAF, à l'assurance maladie, on imagine. Bref, tout un tas d'organismes où on espère que la quadrature réussira à les mettre son nez.
Canu Info. Du mercredi.
Alors moi je vais vous parler crypto-monnaie. Alors j'espère que vous savez ce que c'est parce que ça va être un peu difficile à expliquer. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est des espèces de
monnaie virtuelle.
C'est une monnaie virtuelle. C'est une monnaie virtuelle qui est gérée avec un système de cryptage. D'où le crypto dans crypto-monnaie. Voilà, c'est vrai, c'était super simple, j'aurais pu faire comme ça. Alors, Binance, un géant des crypto-monnaies, notamment, donc il vend notamment des services de gestion de portefeuille, des portefeuilles dématérialisés de ces crypto-monnaies, s'est installé en France en 2021. L'entreprise met en place à partir de 2022 des programmes éducatifs pour sensibiliser les Français aux opportunités de la crypto-monnaie et pour m'éviter d'avoir à trouver une explication à ce que c'est la crypto-monnaie. Entendez par là, mentir comme un arracheur de dents pour faire oublier que toute cette histoire est essentiellement une vaste pyramide de Ponzi consistant à rediriger l'argent en trop des fans de technologie dans les poches de ceux qui ont investi avant eux dans cette technologie et ainsi dans une chaîne illimitée permettre à tout le monde de joyeusement penser s'enrichir sans aucune création de valeur quelconque. On passe sur le monstre climatique que doit être ce machin. Et vous allez me dire, bon bah jusque-là, business as usual chez le capitalisme. Mais là où ça devient rigolo pour notre petite histoire, c'est que... c'est que le Financial Times, donc un journal financier anglophone, nous apprend aujourd'hui que Binance a utilisé des tactiques agressives pour inciter les gens à utiliser ses services dans certaines zones les plus défavorisées de France. On se retrouve face à une forme d'abus de faiblesse promettant à des pauvres un enrichissement rapide et premier problème, ça en France tout le monde le sait, le monopole de arnaquer les pauvres en leur proposant un enrichissement super rapide, c'est la Française des Jeux. Du coup, comme souvent quand on pique le boulot à la Française des Jeux, la pratique de communication est particulièrement agressive et on est loin des campagnes du loto du patrimoine avec Stéphane Bern là. Donc, le principe, c'est que le Binance a passé un contrat avec un organisme de formation et les personnes formées, devaient se créer un portefeuille sur le site de Binance pour pouvoir obtenir à la fin leur certificat de formation. C'était un certificat sous forme de NFT. Donc, les NFT, c'est des images qui sont sécurisées avec cette fameuse clé de cryptage, sur le même principe des clés de cryptage. Donc, à la rigueur, c'est la seule utilité qui ne soit pas... encore une fois une pyramide de Ponzi avec les NFT. Pyramide de Ponzi, c'est un principe d'arnaque où le premier payeur donne de l'argent au deuxième qui donne de l'argent au troisième et qui permet que les gens aient l'impression qu'il n'y ait pas d'arnaque parce que dans un vaste mouvement de déplacement d'argent, tout le monde a l'impression d'être payé à un moment ou à un autre et le moment où tu te rends compte que tu te fais arnaquer, c'est suffisamment longtemps après pour que le type qui soit tout en haut de la pyramide il se soit largement enrichi. C'était ce qu'il y avait eu en 2008 là, avec les... Non, pas en 2008, je ne sais plus comment il s'appelait là. Enfin bon, on s'en fout, c'est pas grave. Donc voilà, donc ils te forçaient à t'inscrire sur leur site pour pouvoir obtenir le certificat de formation à la fin. Un des participants explique par exemple que dans le mois qui a suivi cette inscription, suite à cette formation, il a reçu 17 mails, donc à peu près un mail un peu plus de tous les deux jours. Et donc au moment où il parlait, il en était à son 17e. Et là encore, à la rigueur, on pourrait dire, bon ben voilà, ils arnaquent les gogos, pourquoi pas. Mais devinez, où est-ce qu'ils les ont trouvés, leurs 5400, parce que c'est 5400 personnes qui sont concernées. Eh ben, ils les ont trouvés pauvres formation, ils les ont trouvés au Pôle emploi. Et donc, c'est des demandeurs d'emploi qui ont été envoyés forcés et contraints par Pôle emploi, participer à ces formations de Bifinance qui apparemment était surtout une présentation de tous les super attraits du truc. Alors le truc était tellement grossier que le prestataire là dont je vous ai parlé, l'organisme de formation et qui se sont mis en deux mèches, a arrêté le contrat à la moitié du contrat parce qu'ils étaient censés aller jusqu'à 10 000 chômeurs formés, ils en ont formé que 5400. Voilà. Alors après le Financial Times, vous pourrez aller voir l'article pour ceux qui savent utiliser Google Trad ou qui parlent anglais. Parce qu'il y a aussi des histoires de conflits d'intérêts avec Macron, mais j'ai rien compris à ce qu'il racontait. Et il y a aussi une histoire d'arnaque, mais c'est pareil, j'ai rien compris parce que c'est des trucs de marché financier. Donc apparemment, il y a un droit particulier, notamment apparemment les trucs n'ont pas l'air d'avoir le droit de faire de la pub ou alors d'une manière en particulier et ça a pas été respecté, donc j'ai rien compris. Par contre, ce que j'ai bien compris, c'est que ce genre de délit financier, toutes les peines maximales qui étaient citées étaient à chaque fois ridicules, notamment là cette espèce de truc qu'ils ont fait là, ce machin là, qui est considéré comme grave, c'était 37 000 euros d'amende je crois,
et c'était Bernard Madoff le nom.
Ah merci Madoff.
Et c'est-à-dire que Pôle emploi ne vérifie pas quelle formation ils proposent en fait.
Ah non, apparemment ils envoient les gens. Donc en plus, alors
je
après
c'est proposer peut-être... une formation à Pôle emploi. Je vais les former sur les légumes et puis.
Ouais, a priori. Et puis en plus ils vérifient ni le contenu ni rien parce que c'est pas eux qui se sont. Oui c'est ça, c'est pas eux qui se sont aperçus qu'il y avait un problème. C'est le porteur. Enfin oui. C'est le truc avec lequel coopérait ce Binance là.
Attention, vous êtes
Bonsoir. Commencer par parler un petit peu du classement PISA. Alors non, c'est pas un concours entre la napolitaine et la 4 fromages. Même si ça sent un peu le roussi, la sauce tomate a un goût amer cette année. Non, vous le savez, tout le monde en a parlé. PISA, ça veut dire... Ouais, y a personne là. Y a personne.
Programme international.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal.
Statistiques appliquées au scolaire.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, toi, t'es pas mauvais.
C'est le truc qui a monté en flèche depuis que t'as quitté l'école, non?
Attends un petit peu, toi, tu vas me prendre pour ton grade. Alors, non, ça veut dire exactement, donc vous t'étais pas loin, programme international pour le suivi des acquis des élèves. Ça sert à mesurer le niveau des élèves français et françaises par rapport aux autres élèves du monde. Le
ça
résultat.
Fait pas PISA. Ça fait pas PISA.
Programme international.
Programme international
suivi des acquis
des élèves.
Okay,
d'accord.
Mais
ouais,
les élèves, on le dit pas. Ouais. Pour une fois que tu suis, toi. Donc le résultat est tombé hier. Incroyable. On est nul. Et on chute plus vite que les autres. Alors pour une fois, c'est pas de ta faute, hein, parce que t'y es plus.
Je t'ai piqué ta vanne, t'es dégoûté.
Alors à une époque, t'as bien dû le faire chuter quelques années, le niveau PISA, mais je veux pas t'accabler, ça a pas dû durer bien longtemps. Vu que le temps que tu y es resté à l'école, ça devait pas être énorme. Bon. Les résultats du classement PISA sont catastrophiques. Mais, pas de panique, notre nouveau ministre de l'Éducation est là, présent, réactif et avec des méthodes révolutionnaires. Hier, dès la sortie des résultats, Gabriel Attal annonçait déjà une batterie de mesures. Il est jeune, moderne et visionnaire. Sa première mesure pour lutter contre la baisse du niveau des élèves de France, c'est donc de l'inédit, et fallait y penser, c'est le...
L'uniforme.
Non, le redoublement. Le redoublement. Alors tant que les élèves n'auront pas le niveau, on va les faire redoubler. Tu vois, heureusement que tu n'y es plus, parce qu'avec un système comme ça, tu y serais encore. Bonne idée, monsieur Attal. On pourra faire les malins avec le reste du monde. Mathéo, en CE2, connaît les fables de La Fontaine par cœur et toutes ses tables de multiplication. Ok, il a 15 ans, mais il mange proprement à la cantine. Autre problème, autre mesure. Le niveau serait en baisse à cause de l'augmentation par les élèves de l'utilisation d'objets connectés de type téléphone portable et aussi, bien sûr, du manque de profs. Gabriel Attal a trouvé la solution. Réduire les temps devant les écrans et embaucher des profs? Non, ça c'est ce à quoi pensent les cons. Monsieur Attal est ministre. Alors voilà ce qu'il a déclaré en grande pompe. La France sera le premier pays au monde à mettre à disposition et à généraliser un outil fondé sur l'IA à tous les élèves d'une classe d'âge. Il y en a chez qui l'intelligence, elle n'est pas artificielle. Hein. Un autre problème, mis en lumière par le test PISA, c'est en France le manque de soutien des élèves par leurs professeurs. Pour ça, pas de mesure. En même temps, ça fait au moins 40 ans que le fonctionnement de l'école française est basé sur l'autorité et le mépris. Et ça fait au moins 2 mandats présidentiels que l'action du gouvernement est basée sur l'autorité et le mépris. On rappelle que l'école, ça sert à former de bons citoyens. Les agressions des professeurs? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme pour l'effondrement du système de santé. C'est à cause de l'islam radical et des immigrés. Enfin, dernier point révélé par cette évaluation scolaire mondiale. C'est le poids de l'origine sociale des élèves sur leur destin scolaire. C'est en France qu'il est le plus marqué parmi les pays de l'OCDE. Et pour ça, monsieur le ministre, réorganisation de la carte scolaire, désenclavement des quartiers, favorisation de la mixité sociale? Non, pas de mesure? Ah mais si, la mesure, elle avait déjà été annoncée, bien avant, bien sûr. Favoriser la mixité sociale, briser le communautarisme, c'était l'interdiction de la baya. Voilà, c'est bon, ça a déjà été fait. Ça, avec la théorie du ruissellement si cher à notre gouvernement, les gamins et gamines des quartiers populaires, tu les obliges à mettre un t-shirt correct, et la culture des gamins des riches rentre plus facilement par les pores de la peau. En parlant d'élèves, celles et ceux de Sciences Po Paris ont manifesté hier. Leur directeur est empêtré dans des affaires de violence conjugale. Ces élèves, qui ont tout compris au fonctionnement du gouvernement français actuel, sont parfaitement dans l'air du temps. Ils et elles sont formés pour ça. IEL demandait donc la démission du fameux directeur au nom de l'exemplarité. Allez, pour finir et pour essayer de rigoler un peu, le prix de l'humour en politique a été remis hier à Édouard Philippe. Il a gagné avec cette phrase en réponse à la critique qu'on faisait sur l'étrange couleur de sa barbe et de ses cheveux. La voici. Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Alors moi je trouve que c'est pas la meilleure. J'aurais d'ailleurs préféré celle qui est arrivée deuxième.
On avait dit pas le physique quand même.
Oui, voilà, c'est pas moi, hein, je décline toute responsabilité. Mais moi, pour moi, la meilleure, c'est celle qui est arrivée deuxième. C'était celle de Macron lors de ses vœux aux Français, hein, vous vous en rappelez ? Non ? Qui aurait pu prédire la crise climatique ? Alors j'en ai profité pour en déterrer quelques autres que j'ai trouvé pas mal dans les récentes. Par exemple, celle de Patrick Balkany, de bon ouvrez les guillemets.
Je suis pas coupable, je suis innocent.
Mieux ! Je suis l'homme le plus honnête du monde. Il y avait aussi Laurent Berger, chef de la CFDT, qui en avait sorti une pas mal. Les macronistes ne comprennent pas qu'on puisse avoir à la fois un salaire de merde et des convictions. On a eu aussi celle de Manuel Bompard, bien explicite sur le fonctionnement de la France insoumise. Voilà ce qu'il répondait aux critiques sur Mélenchon et la direction de son parti. Le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. Allez, pour le même prix, je vous mets une petite Sandrine Rousseau, toujours à la pointe, concernant le soutien aux plus démunis. Les SDF meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Faudrait pas non plus oublier Nadine Morano, toujours en train d'essayer de nous prouver que l'insécurité, c'est pire qu'avant. On a une recrudescence de violence. Par exemple, le vol des portables à l'arraché. Ça n'existait pas avant que les portables existent. Et enfin, la dernière phrase de Bernard Kouchner, un peu plus ancienne, mais qui résonne de manière particulièrement tragique au vu de l'actualité au Moyen-Orient. Il doit bien rester un angle de tir pour la paix. Phrase qui fait aussi écho à la phrase d'un représentant de la Croix-Rouge au retour de Gaza qui décrit l'enclave comme l'enfer sur Terre, pire que les autres zones de guerre comme l'Ukraine où il s'est aussi rendu. Il prononçait hier cette phrase dont le caractère absurde s'exprime de manière encore plus terrible. Et c'est vrai, il l'a vraiment dit hier. Ici à Gaza, on ampute à tour de bras. Si les États-nations, formes d'organisations qui renforcent toujours plus les nationalismes, massacrent sans vergogne les peuples sans État comme les Palestiniens, il ne faut pas oublier la résistance dont ils font preuve et dont on parle moins souvent, résistance, qu'elle soit armée ou civile.
Canu Info.
Eh bien, il y a des fraudeurs qu'on emmerde moins. C'est près de 2/3, 64% pour être exact, des communes concernées par la loi SRU qui fixe notamment des quotas de logements sociaux qui n'ont pas respecté leur objectif sur la période 2022-2023. Parmi les 659 communes en faute sur 1031, on y trouve la quasi-totalité des grandes villes, souligne la Fondation Abbé Pierre. La loi SRU oblige les communes en zone urbaine à avoir un taux minimum de 20 à 25% de logements sociaux. Si elles sont en deçà, il leur est assigné un objectif triennal de construction afin de rattraper leur retard. Donc là, c'est la période où on est gentil avec les communes. On dit « Ah là, vous n'allez pas payer une amende tout de suite ». Mais il faudrait penser à combler votre retard. Si elles ne tiennent pas les délais, elles devront donc payer une amende à partir de ce moment-là. Nationalement, la totalité des communes concernées n'ont produit que 60% des logements sociaux qu'elles auraient dû construire. Or, sur les deux précédentes périodes, les chiffres étaient supérieurs à 100%. Les communes rattrapaient donc leur retard plus vite que prévu. Pour la Fondation Abbé Pierre, cette chute brutale est due à deux facteurs. Le premier facteur, c'est la pandémie du Covid-19 qui a mis un frein au chantier, forcément. Mais un second facteur, c'est la politique gouvernementale très défavorable à la construction de logements sociaux. Tiens donc, les bons et mauvais élèves dans les grandes villes sont, allez, on se fait une petite liste. Montpellier,
Neuilly. C'est pas une ville, Neuilly, c'est une bourgade.
Alors, Montpellier qui a atteint son objectif, et c'est à peu près la seule grande ville à avoir atteint son objectif. Paris a une grosse production, elle dépasse les 100%, mais Paris arrive toujours un peu à sortir des clous malgré tout, car la ville a une politique de logement dits peu sociaux, qui a donc pour but de stabiliser les classes moyennes et aisées dans la capitale aux dépens des publics qui en auraient le plus besoin. En gros, Paris construit des logements sociaux pour les plus riches.
Qui ont de quoi se loger.
Ouais, voilà. Ensuite, Nice et Boulogne-Billancourt sont les plus mauvais élèves. Les villes ont construit que 13% des obligations légales. Toulon suit avec 19%, puis Marseille avec 38%, Aix-en-Provence 47%, Perpignan 49%, Annecy 81%, Bordeaux 82%, Lyon 86% et Saint-Paul-de-la-Réunion 89%. Et bien évidemment, voilà, vous en voulez.
Ah, bah quand même.
Neuilly-sur-Seine, ghetto de riches, jamais pointé du doigt par les médias, à part nous peut-être, avec 1% de l'objectif atteint. Mais. Ah oui. Moins connu quand même, parce que Neuilly-sur-Seine, c'est presque un peu son image de marque qui est là-dessus. Elle est fière de payer ses amendes pour cette non-respect de la loi SRU. Moins connu, il y a tout aussi en la loi, il y a Rambouillet avec 2%. Donc Rambouillet, c'est en région parisienne, voilà, pardon. Maison Lafitte avec 8%, Vincennes avec 16% et Saint-Maur-des-Fossés 18%. Donc voilà, avis aux gens qui ont envie d'aller peut-être taguer les
communes. En gros, la PACA et la région parisienne, nul quoi.
Ouais, c'est en gros.
Enfin, sauf Paris, mais Paris, ils trichent parce qu'ils mettent des riches dans leurs logements sociaux. Donc ceux qui sont hors de la République, on note bien, c'est la PACA. L'Hérault aussi, non c'est... Non, l'Hérault, ils sont bien.
Au contraire, c'était
bien. Ouais, non, l'Hérault, ils sont forts.
Ouais, ouais.
Mais Perpignan, c'est quoi?
Perpignan, bah si, Perpignan c'est dans l'Hérault.
Et ben voilà, ouais. Du coup, l'Hérault.
Perpignan, Toulon, bref. Et à noter que par exemple, la Fondation Abbé Pierre, dans ce rapport-là, la loi SRU, légifère aussi les constructions d'air des gens du voyage, d'accueil des gens du voyage. Et alors là, je pense que ce serait. Faudrait avoir les chiffres et ce serait à peu près la catastrophe. Et ben voilà, et ben c'est 19h34. Est-ce qu'on a un petit agenda?
Oui, bah moi j'ai un petit agenda, mais allez-y d'abord, puis après.
Est-ce que on peut annoncer que il y a une mobilisation le jeudi 14, justement puisque c'est dans le thème, comme ça on fait thématique. Je t'ai volé quelque chose ou ça?
Non, 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 mais
parfait.
Après,
on fait thématique, donc il y a une mobilisation jeudi 14 pour des logements pour tous, des travailleurs sociaux, des différentes associations d'urgence sociale. J'imagine que vous pouvez vous joindre à eux. C'est à 14h devant la
métropole.
La métropole, merci. Ouais.
20 rue du Lac.
20 rue du Lac, voilà la magnifique.
Donc le 14 décembre à 14h. On a aussi le 15 décembre, à partir de 17h, un rassemblement pour soutenir l'occupation depuis un mois de l'école Jean Giono, parce qu'une vingtaine d'enfants dort à la rue. Donc le 15 décembre à 17h, à l'angle de la rue Stéphanie-Coignet et de l'avenue Paul-Santi, batoukada et vente de nourriture pour essayer de payer aux enfants les produits de première nécessité. Il y a aussi ce samedi, 9 décembre, de 17h à 19h, rassemblement sur les berges du Rhône au niveau du pont de la Guillotière pour demander un cessez-le-feu à Gaza, l'arrêt du génocide des Palestiniens, et la consigne c'est d'apporter vos bougies. Et il y a aussi un rassemblement pour soutenir les habitants de l'annexe et de l'ECG, squat dans le 7e arrondissement, qui vivent depuis 15 jours sans électricité et sans chauffage. Alors je vous lis l'appel à rassemblement. Donc ce sera le jeudi 7 décembre à 14h30 devant Grand Lyon Habitat, 2 places de Francfort dans le 3e. Donc demain, ça fera 2 semaines que les 40 personnes vivant à l'ECG annexe sont privées de chauffage et d'un niveau d'électricité minimal permettant de vivre décemment. Les activités du lieu ne peuvent pas non plus se tenir, la situation ne peut plus durer. Soyons nombreuses, nombreux au rendez-vous pour demander un niveau de courant suffisant. La fête des Lumières, ça suffit pas à passer l'hiver.
Eh bien on va se quitter avec une chanson de La Souris Déglinguée.
Ouais.
Et ce sera sur la zone en attendant.
Ouais, et Taï Luc restera dans nos cœurs.
Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
Je suis tombé amoureux d'une putain de zone. Depuis le jour où je l'ai connue, elle me colle à la peau. D'ailleurs, toi, tu la connais aussi bien que je la connais, puisque tu es né sur la zone. Sur la zone, sans moi, jusqu'à Million Cool, de Playel jusqu'à Sarcelle. Sur la zone, et tout là-bas, tout au nord, on l'a aimé la première fois. Elle avait qu'un seul nom, et son nom, c'est la zone. Quand elle m'a dit, je t'aime. Y'a Bastia et Patricia, ça y est, tous les autres. France à faire les essais frères, les meilleurs, et j'en passe. Ils ont pas voulu sortir, ils sont restés là-bas.
car ils m'ont dit que tout est mieux sur leur zone. Et sur la zone de Savoie jusqu'à Clignancourt, de Pleyel jusqu'à Sarcelles. Et là-bas, sur la zone, et tout là-bas, tout au nord, on l'a aimé la première fois. Elle avait qu'un seul nom, et son nom c'est la zone. Quand elle m'a dit je t'aime.
Normalement, on va mettre ensuite une autre chanson de la Souris Déglinguée, une chanson bien, bien représentative de leur esprit rebelle without a cause, puisque ça s'appelle Une cause à rallier, et c'est l'histoire de ces jeunes désœuvrés qui sentent bien qu'il y a un problème et qui sont révoltés, mais qui ne savent pas vraiment dans quoi s'engager.
Allez, cette fois-ci, c'est la fin. Merci de nous avoir écoutés.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Belle des radios.